Épître aux Hébreux, chapitre 11. Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Car c'est par elles que les anciens ont reçu témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce qui se voit n'a pas été fait de choses qui paraissent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn, et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. Dieu rendant témoignage à ses dons, et par lui, étant mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit pas la mort, et il ne fut pas trouvé parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qu'il recherche. Par la foi, Noé, étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit, et bâtit une arche pour la conservation de sa maison. Et par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir pour héritage. Et il s'en alla, ne sachant où il allait. Par la foi, il demeura dans la terre de la promesse, comme dans une terre étrangère, demeurant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a les fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Par la foi, Sarah elle-même aussi reçut la force de fonder une postérité, et cela étant hors d'âge, puisqu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est pourquoi aussi d'un seul et d'un homme déjà amorti sont nés des gens qui sont comme les étoiles du ciel en nombre et comme le sable qui est sur le rivage de la mer, lequel ne peut se compter. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre. Car ceux qui disent de telles choses montrent clairement qu'ils recherchent une patrie. Et en effet, s'ils se fussent souvenus de celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu du temps pour y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a point honte d'eux, savoir d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Par la foi, Abraham étant éprouvé, a offert Isaac. Et celui qui avait reçu les promesses offrit son fils unique, à l'égard duquel il avait été dit, « En Isaac te sera appelé une semence. » Ayant estimé que Dieu pouvait le ressusciter même d'entre les morts, d'où aussi en figure il le reçut. Par la foi, Isaac bénit Jacob et Ésaü à l'égard des choses à venir. Par la foi, Jacob mourant, bénit chacun des fils de Joseph et adora, appuyé sur le bout de son bâton. Par la foi, Joseph, en terminant sa vie, fit mention de la sortie des fils d'Israël et donna un ordre touchant ses os.
La partie de ce chapitre que nous avons considéré hier, brièvement, malgré tout, nous nous a donné, je ne fais que le rappeler, un tableau aussi complet que remarquable et plein d'enseignements pour nous de ce que la foi produit, de ce qui caractérise l'homme depuis la chute, et qu'il réalise cela plus ou moins, les caractères de la foi demeurent les mêmes chez eux. Puissions-nous les réaliser davantage. La foi qui a reçu la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, scellant que Dieu est vrai, entraîne cette conséquence bénie que les choses futures présentées comme objet d'espérance sont déjà présentes à l'âme comme une réalité et que les choses invisibles, les choses célestes, les biens célestes sont pareillement, quoique invisibles, présents à l'âme. Assurance des choses qu'on espère, ferme conviction de celles qu'on ne voit pas. Il n'y a pas d'illusion. Il n'y a pas de choses fictives, imaginaires, dans le domaine de la foi. Ce sont des réalités futures ou invisibles, les deux à la fois, mais qui sont, je le répète, présentes à l'âme. Alors, première chose, c'est que par la parole de Dieu, on sait, on comprend que cet univers au milieu duquel nous sommes placés et qui demeure une énigme pour l'intelligence humaine, a été formé par la parole de Dieu. Et la puissance de la parole de Dieu demeure toujours la puissance à laquelle la foi a affaire. On a pu dire que c'était vrai déjà avant la chute pour Adam. Cela demeure vrai alors que toutes choses ont été faussées à commencer par l'intelligence humaine, mais ce qui demeure, ce qui éclaire tout pour l'esprit humain lorsque il est renouvelé par la foi, c'est la parole de Dieu. Mais vient ensuite la question, le péché étant là, l'homme se trouvant dans une condition telle que ses relations avec son Créateur, les relations de l'homme avec Dieu, sont non seulement gâtées, mais rompues par le péché, comment les rétablir? Comment l'homme pécheur peut-il se trouver dans la présence de Dieu? Comment peut-il s'approcher de Dieu? Il faut la rédemption, il faut un sacrifice, et c'est ce que la foi comprend. Pour des pécheurs, pour des vies pécheresses, il faut l'offrande d'une vie sainte. Et c'est ce que nous avons en figure avec Abel, et qui est agréé de Dieu parce que il offre un sacrifice sanglant. Comment avait-il été amené à comprendre qu'il fallait cela? De la même manière que la foi comprend que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Il avait compris par la parole de Dieu, par la parole qui avait été dite à Adam. Et parce que Dieu avait montré et révélé déjà lui-même, et il offre ce sacrifice. Et cela nous parle de ce qui, pour l'homme pécheur dans tous les temps, est le seul remède, le seul moyen pour que des relations dans lesquelles la crainte du jugement n'entre plus, mais au contraire, la précieuse notion, le précieux sentiment de la grâce de Dieu, que des relations soient établies entre lui et Dieu. Et c'est la justification du pécheur, justifié en vertu de l'œuvre accomplie, de par la valeur du sang versé, de par la valeur de l'offrande, mais tout cela est connu et reçu par la foi. Le croyant offre par la foi au Dieu qui a pourvu à son salut, et c'est à cette offrande, à ce don, ou ces dons, s'il s'agit, que nous trouvons ici, les dons d'Abel, que le pécheur doit son salut, sa rédemption, l'assurance, la paix, la justification. Il a reçu, Abel a reçu le témoignage d'être juste, Dieu rendant témoignage non pas à Abel lui-même, comme si cela venait de lui, comme s'il y avait quelque mérite propre en lui, mais rendant témoignage à ses dons, les dons offerts par la foi. Et une fois justifié, alors le croyant a le privilège de se trouver en dehors de l'état de choses précédent, sorti moralement de ce qui est caractérisé par le péché du monde et tout ce qui le caractérise comme domaine de Satan. Et il est appelé alors à regarder premièrement regarder à l'avenir avec une pleine confiance, n'ayant plus à craindre le jugement et sachant que quoi qu'il arrive, par-delà cette existence terrestre, il y a le bonheur éternel, il y a la présence de Dieu. Enoch nous est présenté ainsi comme et quelqu'un qui, ayant vécu ici-bas avec cette perspective d'être avec Dieu, et étant déjà avec Dieu, bien que cela ne soit pas souligné ici dans ce passage, la Genèse nous dit qu'il marcha avec Dieu, est enlevé sans passer par la mort. La foi triomphante de la mort. Et d'autre part, il a reçu le témoignage, il avait reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Quelqu'un qui vit ici-bas avec pleine certitude quant à l'avenir, quoi qu'il arrive. La mort ne compte pas. La mort qui est réservée à tous les âmes. La mort ne compte pas. Et dans l'existence présente, la foi est approuvée de Dieu et le plaisir de Dieu. Enoch a reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Au point de départ, la justification avec Abel, ensuite la foi, objet de la faveur de Dieu de toute manière, et la foi triomphante même de la mort. C'est ainsi que les deux caractères d'Abel et d'Enoch se trouvent ensuite résumés au verset 6, où il nous est dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'ont cherché. La foi s'approche de Dieu. La foi, il y a quelqu'un qui peut s'approcher de Dieu. On s'approche par la foi. Il y a quelqu'un qui recherche Dieu. Et c'est la foi qui recherche Dieu, alors que le monde s'éloigne toujours plus de lui, que l'homme pécheur est aliéné de Dieu. Et Dieu est connu non seulement comme le Dieu qui est, qui a l'existence par lui-même, c'est le « je suis » dans toute la force du terme, mais pas seulement l'existence de Dieu comme on en parle de façon plus ou moins superficielle et toujours incomplète dans le monde. Et l'homme prétendant prouver l'existence de Dieu, comme si cette existence ne s'imposait pas à l'homme qui a conscience quelque peu de ce qu'il est vis-à-vis d'un créateur. Alors, il y a ce que Dieu est, et il y a le fait que Dieu justifie le pécheur sur le principe de la foi en un sauveur, une victime offerte pour porter nos péchés, et puis Dieu rémunérateur de ceux qui le recherchent. Et cela va bien au-delà de ce qui pourtant nous semblerait le comble pour un pécheur perdu, savoir que Dieu ne se souvient plus de ses péchés, que Dieu pardonne. Ce qui nous est présenté dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3 et 4 de l'Épître aux Romains. Être justifié, bien plus que cela. Dieu veut être connu de la foi et se fait connaître de la foi, et c'est le privilège de la foi de le connaître ainsi, comme celui qui est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, et qui se plaît à donner, et qui se plaît à combler le croyant. Et c'est ce que nous avons avec Abel lui-même, déjà, puisque Dieu prend rend témoignage que ses dons sont agréés, mais que, même étant mort, il parle encore. Et c'est ce qui est vrai essentiellement pour Enoch. Ils ont reçu témoignage l'un à l'autre, l'un et l'autre. Ils ont reçu témoignage d'être juste, reçu le témoignage d'avoir plu à Dieu. Et avec Noé, alors, nous avons celui qui, par la même foi, la foi en la parole de Dieu, la parole qu'avait reçue Abel, la révélation qu'Enoch avait reçue, mais avec une révélation particulière révélation nouvelle quant à, au jugement du monde mauvais au milieu duquel se trouvait Noé. Noé prêche cette parole. De quelle manière, ça ne nous est pas dit. Il l'a fait entendre, en tout cas, par le fait même de la construction de l'arche. C'est la foi active, c'est la foi se déployant dans une action que le monde est appelé à voir et qui, en réalité, condamne ce monde. Et lui fait annonce son jugement, sa condamnation. La justice de Dieu devant intervenir en jugement à l'égard ce monde qui ne veut pas se repentir qui est dressé en rébellion, en corruption contre son Créateur. Et ce prédicateur de justice rend ainsi témoignage au milieu de ce monde à la fois de l'imminence du jugement et du moyen que Dieu a donné pour y échapper. Et toute la prédication de la grâce de Dieu dans tous les temps et toute la prédication de l'Évangile au temps du christianisme comporte ces deux choses, le jugement et le moyen d'y échapper. Par l'arche, Dieu condamne le monde, mais il annonce aussi que pour lui et pour sa maison, il y a une délivrance, il y a la conservation de sa maison. Et il est ainsi, prédicateur de justice, comme l'appelle l'épître de Pierre, mais il devient héritier de la justice qui est selon la foi. Il est le dernier de toute la série des hommes de foi d'avant le déluge, dont le chapitre 5 de la Genèse nous donne la suite, l'histoire, et il recueille cet héritage de la foi, il l'emporte à travers le jugement et dans le monde nouveau dont il se trouve le chef, il est là l'héritier de la justice qui est selon la foi. Il y a ainsi tout un tableau, n'est-ce pas, un moral de la foi dans ses effets pratiques, car il s'agit ici de vie pratique, d'existence ici-bas, commençant par la justification, continuant par une marche dans l'espérance et dans la communion avec Dieu, plaisante à Dieu, avec comme terme l'inexistence, on peut dire, de la mort pour le croyant. Et puis, il y a le témoignage rendu au milieu de ce monde, à ce monde, quant au jugement et quant à la délivrance, et le croyant étant ainsi le dépositaire, l'héritier de cette grande chose qui s'appelle la justice selon la foi. Voilà ce que nous avions examiné hier. Peut-être y a-t-il des points sur lesquels il y aurait encore à revenir, tellement le sujet est important.
Exemple de Noé. Et utile à méditer. Il a dû certainement plus d'une fois être traité de fou. et nous employons le mot des saints parce qu'il est dans le Nouveau Testament. Il a tenu ferme. Il a maintenu sa position de façon très distincte de tout son entourage pendant 120 ans. Il n'y a pas eu d'équivoque dans son témoignage. Il y a souvent de l'équivoque dans le nôtre. Et les choses qu'il annonçait n'étaient pas agréables autour de lui. Et il y a dans la vérité chrétienne des choses qui ne sont pas agréables à ceux qui ne sont pas chrétiens. Que nous ayons à avoir du tact pour les présenter, c'est clair. Mais ce tact ne peut pas nous conduire à infirmer l'autorité de l'Écriture. Et au contraire, nous devons, si nous avons de l'intérêt pour des âmes qui nous entourent, nous devons, en imitant tout ce que le Seigneur peut nous donner, et qu'il faut qu'il nous donne, pour le faire comme de sa part, qu'il soit très clair, très clairement présenté aux âmes inconverties, que soit très clairement présenté la solennité du sort qui les attend. La construction de l'arche est un appel permanent. Évidemment, il n'y a pas de nuages dans le ciel, rien n'annonçait la catastrophe, mais elle est venue. Et les contemporains de Noé, nous pouvons penser, si on n'ose parler ainsi, n'ont guère pu faire de reproche à Noé d'avoir pas été assez clair dans le témoignage qu'il a rendu. Seul le Seigneur, l'Esprit Saint, peuvent nous apprendre à savoir mêler à la foi, manifestation de la grâce et de bonté envers tant de foules égarées ou des âmes égarées autour de nous, et en même temps la netteté de la vérité. C'est la misère éternelle qui les menace à tout instant.
Mais je citerai à l'appui de ce qui vient d'être dit, simplement citer le verset de 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, verset 11. Connaissant donc combien le Seigneur doit être craint, et nous persuadons les hommes. Noé, nous est-il dit, craignit. La première chose qui nous est dit de lui, Noé étant averti divinement des choses qui ne se voyaient pas encore, craignit. Nous savons, nous devons savoir, connaissant donc combien le Seigneur doit être craint. Ce sont les croyants qui savent combien le Seigneur doit être craint. Ils ne craignent pas le jugement pour eux-mêmes, mais ils savent combien le Seigneur doit être craint. Et dans cette crainte, ils sont appelés à persuader les hommes. Plus loin, l'apôtre dira, l'amour de Christ nous étreint. Il y a les deux choses. La crainte du Seigneur, l'amour de Christ.
L'esprit de grâce mêlé au sel nous est recommandé précisément à l'égard de ceux du dehors. Colossiens 4, verset 6, marchez dans la sagesse envers ceux du dehors, saisissant l'occasion. Que votre parole soit toujours dans un esprit de grâce, mais assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun.
s'agit pas dans ces réalités solennelles d'une question de degré de connaissance, même quant aux choses divines. Il s'agit, comme toujours, de la relation des âmes avec Dieu. Et il n'y a que deux issues possibles. Cela, si nous y arrêtions davantage, nous rendrait à la fois plus dévoués et aussi plus sérieux, plus grave. Quand on pense qu'il s'agit du jugement éternel, il n'y a rien d'autre. Ou c'est la bénédiction éternelle, ou c'est le malheur éternel. Retenons-le.
À côté du tableau moral que nous avons dans ces premiers versets, tableau moral de ceux qui ont réalisé ce qu'était la foi dans le temps qui a précédé le déluge, il y a également tout un développement de la pensée de Dieu à l'égard de l'homme, ce qu'on a appelé la pensée éternelle de Dieu à l'égard de l'homme. Il y a là les grands faits, les faits fondamentaux de cette pensée. Il y a tout d'abord la création. L'apôtre dit ici, nous comprenons par la foi la création. Et il est sous-entendu que tout homme est responsable par les œuvres, les seules œuvres de la création, de croire en l'existence d'un Dieu tout-puissant qui de rien a tout formé. C'est lui qui a tout formé, dit le prophète Jérémie. Il y a donc d'abord ce grand fait de la création. Il y a ensuite, avec Abel, le grand fait de la rédemption. Si nous lisons le chapitre 4 de la Genèse, nous voyons Abel offrant les premiers-nés de son troupeau, c'était déjà quelque chose, c'était pas n'importe quelle pièce du troupeau, mais les premiers-nés et leur graisse. Il y avait déjà là comme une préfiguration non seulement du sacrifice de Christ, mais de l'excellence et de la perfection du sacrifice de Christ, en vertu duquel, moyennant la foi, Dieu pourrait justifier l'homme pécheur. C'est là le deuxième grand fait, le fait de la rédemption. Ensuite, avec Enoch, nous avons la pensée du témoignage pratique que ceux qui sont ainsi justifiés par la foi ont à réaliser. Ils ont à réaliser une marche avec Dieu. Comme il a été rappelé hier dans l'Épître aux Galates, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Enoch a réalisé cette marche. Et il a marché ainsi avec Dieu durant très longtemps, sans penser qu'un jour serait le dernier marqué par la mort. Enoch a été enlevé. Ainsi aujourd'hui, le chrétien va de jour en jour, non pas en attendant la mort, mais en attendant le retour du Seigneur. Au retour du Seigneur, nous les vivants qui demeurons, nous serons ravis, nous serons enlevés, dit l'apôtre Paul, à la rencontre du Seigneur en l'air. De telle sorte qu'il y a là tout un développement d'une pensée, pas seulement morale, mais d'une pensée prophétique. Il y a dans le sacrifice d'Abel, l'annonce d'un sacrifice plus excellent, celui de Christ. Il y a dans cette marche qui aboutit à un enlèvement, Enoch ne fut plus, Enoch fut pris par Dieu. Il y a là comme une annonce prophétique de ce que serait l'espérance de l'Église. Nous sommes ici dans l'Épître aux Hébreux, au début du temps du christianisme, et nous sommes dans le temps du christianisme, et il pouvait être, il peut être vu dans l'enlèvement d'Enoch comme une prophétie concernant l'enlèvement de l'Église. Comme Enoch a été enlevé, ainsi l'Église sera enlevée de la terre. Enoch a été vu pendant 300 ans, on a eu le temps de le connaître, de le voir, on le voyait allant et venant. C'était un saint homme de Dieu qui marchait sur cette terre, puis brusquement, un jour, on l'a plus. On ne l'a plus vu, il ne fut plus, il a été pris. Ce sera exactement la même chose pour l'Église. En un instant, en un clin d'œil, l'Église sera enlevée de la terre. Quelque chose qui ne sera pas vu du monde, quelque chose d'instantané. En un instant, nous, les vivants qui demeurons sur la terre, ayant cru au Seigneur Jésus, nous serons enlevés par lui-même et transportés dans les demeures de la maison de Dieu notre Père. Et enfin, dans le troisième témoin mentionné, c'est-à-dire Noé, nous avons alors une prophétie non plus concernant le peuple céleste de Dieu. Le peuple céleste de Dieu, c'est l'Église ou l'Assemblée. Il y a un peuple terrestre de Dieu, c'est le peuple d'Israël, un peuple avec qui Dieu avait des relations spéciales comme il n'en avait avec aucune autre nation. Mais un jour, ces relations ont été rompues. Et pour le moment, le peuple d'Israël est à l'arrière-plan. Dieu s'occupe de son peuple céleste. Mais un jour, Dieu renouera ses relations avec son peuple terrestre, le peuple d'Israël, et d'une façon très spéciale, avec un résidu de ce peuple, une faible partie de ce peuple, qui est appelé plusieurs fois dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau aussi, un résidu. Et Noé est la figure, il est le type de ce résidu d'Israël. Mais pour que Dieu puisse renouer des relations valables avec ce peuple, il faudra que ce peuple connaisse des exercices de conscience absolument inexprimable. Et ainsi comme Noé a traversé les eaux du déluge, ainsi ce résidu du peuple d'Israël devra traverser les eaux de ce que la parole de Dieu appelle aussi la grande tribulation, un temps qui durera 3 ans et demi. Et c'est par ces exercices. Et nous nous rendons absolument pas compte de l'intensité de ces exercices. Au terme de tels exercices, alors, il y aura là un résidu manifesté qui enfin mettra sa foi en Jésus de Nazareth et le reconnaissant comme étant le Messie annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Ceux qui ont été dans l'arche ont été en très petit nombre, on l'a rappelé hier. Le résidu sera aussi représenté par un petit nombre de témoins. Même le prophète Ésaïe compare ce résidu éprouvé, le compare à une forêt. Au chapitre 10e du livre du prophète Ésaïe, il est comparé à une forêt dont les arbres sont tombés, dont les arbres ont été détruits. Pour finir, il ne reste plus que quelques arbres, tellement peu, dit l'Écriture, qu'un enfant, un petit enfant, pourrait les compter. Un enfant en inscrirait le nombre. C'est dire que véritablement, les témoins de ce résidu seront peu nombreux. Cela nous montre aussi que Noé représente ainsi ce résidu d'entre le peuple d'Israël et ainsi purifié, affiné, blanchi, pour employer les paroles du prophète Daniel, ce résidu deviendra le centre d'un peuple terrestre, régénéré, revivifié, restauré, c'est-à-dire le peuple d'Israël, l'Israël millénaire, ce peuple alors qui jouira de la félicité de ce temps que l'on appelle le millénium. Dans ce sens-là, il y aura, on peut le dire, comme il est dit de Noé, qu'il devait être héritier de la justice qui est selon la foi. Ainsi, le résidu d'Israël pourra hériter enfin de cette justice, mais qui est selon la foi. Et en terminant, je rappelle simplement les paroles du Seigneur Jésus dans l'Évangile selon Luc, en rapport avec la foi et avec la justice. Quand dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 18e, le Seigneur parle dans une parabole. Il parle d'une veuve qui s'en est allée auprès d'un juge qui ne craignait pas Dieu et qui ne respectait pas les hommes. Alors au verset 6, le Seigneur dit, « Écoutez ce que dit le juge inique, et Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» Et il use de patience avant d'intervenir pour eux. Je vous dis que bientôt il leur fera justice, mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Nous sommes toujours sur un terrain juif dans l'Évangile, dans les Évangiles synoptiques d'une façon particulière. Eh bien voilà, ces élus qui crient à lui nuit et jour, sont précisément ces témoins du résidu représenté par Noé qui crieront dans la détresse de leur âme. La grande tribulation est appelée la détresse pour Jacob, la détresse de Jacob. Ils crieront à lui nuit et jour et Dieu écoutera quand les exercices de conscience auront obtenu, seront arrivés à leur résultat selon la pensée de Dieu. Alors, bientôt, il leur fera justice. Mais il y aura là quelques témoins, d'où la question, quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? Il y en aura, grâce à Dieu, et alors sur ce pied-là, sur ce pied seul de la justice de Dieu, quand Jésus aura été reconnu, alors le peuple d'Israël pourra enfin connaître le repos et la gloire dans ce règne que l'on appelle le temps du millénium. Il y a donc la création, il y a donc la rédemption et le sacrifice parfait de Christ, il y a donc la marche fidèle à la gloire de Dieu qui pour le chrétien se termine par l'accomplissement de l'espérance bienheureuse du retour du Seigneur Jésus. Et enfin, quant à la terre, il y a un résidu qui se repentira, qui reviendra à la connaissance de Jésus de Nazareth comme étant le Messie annoncé par les prophètes. Et alors, il pourra bénéficier, hériter de la gloire du royaume millénaire.
Voilà donc, avec ces sept premiers versets, un des tableaux je répète, les plus complets et les plus riches d'enseignements de la parole quant à l'ensemble de l'histoire de l'humanité, l'histoire du témoignage de Dieu, et sur le plan individuel, l'histoire de toute âme, l'histoire d'un croyant. À partir du verset 8, avec le second paragraphe, nous avons la foi dans son activité sur la terre, soit en rapport avec les promesses de Dieu gardées et sur lesquelles on s'appuie, de telle sorte qu'on regarde vers l'avenir avec confiance, même si la mort intervient, mais sur cette terre, n'est-ce pas, je veux dire, des croyants qui ont à appliquer leur foi à des circonstances voulues par Dieu, dirigées par Dieu. Ensuite, et qui comporte des épreuves particulières. Ensuite, on trouvera la foi aux prises avec l'opposition des ennemis de Dieu, des incrédules, disons, du monde, sous ses aspects divers. Alors, dans le premier cas, il s'agit essentiellement de la foi attendant avec patience et en supportant et en souffrant ce qui est nécessaire pour cela, mais comptant sur Dieu avec patience pour l'accomplissement des promesses. Dans la seconde partie, il s'agit de l'énergie de la foi pour faire face à ce que le monde oppose, et il y a le combat comme il y a les souffrances et les persécutions. La patience de la foi, nous la trouvons essentiellement illustrée par l'histoire d'Abraham et de sa famille immédiate, et depuis le verset 8 jusqu'au verset 22, c'est là le sujet capital. La foi qui a reçu des promesses, qui reçoit des encouragements particulièrement précieux de la part du Seigneur, mais est toujours appelée à regarder vers l'avenir quant à l'accomplissement de ses promesses. Il est clair que la foi cesse dès l'instant où les promesses deviennent une réalité. Il n'y a plus à croire quand on a dans les mains, quand on voit de ses yeux. Mais jusque-là, la foi a été encouragée, ranimée, conservée par le croyant à la gloire de Dieu. Avec Abraham, la première chose qui lui est dite,
la révélation particulière qu'il reçoit et la promesse qui lui est donnée, qui est renouvelée et enrichie d'ailleurs plusieurs fois au cours de son histoire, c'est qu'il y avait un héritage, un pays qui lui était promis comme héritage à lui et à sa semence, à sa postérité, et il devait, pour en prendre possession, quitter le pays où il se trouvait. « Va-t'en de ton pays et de ta parenté » chapitre 12 de la Genèse. Et Abraham étant appelé, voilà l'appel adressé à l'âme, l'appel auquel la foi répond, Abraham obéit. Premier caractère, par conséquent, l'obéissance. Il part, il s'arrête en route, ça ne va pas apporter ici, les manquements des hommes de foi n'apparaissent pas dans ce chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, mais seulement les actes de foi. De sorte que nous le voyons tout de suite dans la terre de la promesse, parti ne sachant où il allait, mais conduit par Dieu, et lorsqu'il est sur la terre qui lui a été promise, il se trouve là comme étranger. Il ne reçoit pas encore ce qui est promis. Ce qu'il a reçu, c'est la promesse, c'est la parole de Dieu. Et c'est à cela qu'il s'attache. Et ayant obéi, maintenant, sur cette terre de la promesse, la foi produit ce second résultat, qu'il y vit comme sur une terre étrangère. Il est là, séparé d'un pays qui lui appartient, des habitants de ce pays, il vit comme étranger. Et étranger, voyageur, troisième caractère, c'est que cette séparation qui est ainsi faite pour Dieu s'accompagne pour Abraham de la notion, conviction, connaissance dans une certaine mesure de ce qui lui est préparé, ce que Dieu lui a préparé, d'une cité qui a les fondements. Autrement dit, il est bien étranger sur la terre de la promesse, mais il est installé là en étranger. Il n'attend pas la pleine réalisation de la promesse sur cette terre. Il a devant lui la cité qui a les fondements. Ensuite, une autre promesse est faite à celui qui n'avait pas d'héritier de sa famille, qui n'avait pas de fils. Et alors, une semence sortant de ses reins lui est annoncée, lui est promise, la promesse d'un fils auquel appartiendront ensuite les promesses qui ont été faites précédemment à Abraham. En Isaac te sera appelée une semence. Abraham avait reçu les promesses, voici celle d'un héritier. Et alors, dans l'accomplissement de cette promesse, Et nous voyons intervenir Sarah. Sarah, présentée dans la Genèse, pour commencer, comme incrédule et conduite par des pensées charnelles, mais qui a les yeux ouverts et qui estime fidèle celui qui avait promis. Et c'est en elle que se montre la pleine confiance en Dieu. Obéissance, séparation pour Dieu, attachement à la cité qui a les fondements, et confiance en Dieu pour la pleine réalisation de ses promesses, dont un héritier qui sera donné.
Nous pourrions chanter un cantique, le cantique 119e, les quatre strophes du cantique 119e.
Abraham était particulièrement significatif et démonstratif pour ces chrétiens hébreux et pour nous, car il est par excellence l'homme de foi, présenté comme tel à travers toute la parole, toute son histoire et tout ce qui peut être rappelé de son histoire ensuite à travers toutes les écritures, et celui qui est appelé le père des croyants. Et l'on comprend que pour ramener et pour préserver de tout recul ces chrétiens hébreux, c'est ce résumé de la vie d'Abraham présenté sous le jour de la foi obéissante et triomphante de tout et triomphante de la mort, cela prend un caractère tout spécial. Nous avons vu Abraham appeler et les résultats de son appel. On trouve plus loin Abraham éprouvé quant à sa confiance en Dieu et quant à l'accomplissement des promesses, et c'est là que sa foi triomphe de la mort elle-même.
Nous ne perdons pas de vue que nous sommes dans l'Épître aux Hébreux, et que ça n'a pas été une chose facile aux Juifs de changer de terrain, pour ainsi dire. C'est pourquoi le Saint-Esprit s'emploie à tant de développement dans cet épître. Nous nous rendons peu compte de l'attachement que les Juifs ont fait pour leur religion qui les distinguait de tous les autres peuples du monde. Et l'exemple d'Abraham, par exemple, d'Abraham qui n'a pas reçu ce qui avait été promis, était un argument sans réplique pour les Hébreux, pour leur dire n'attendez pas. Abraham n'a pas reçu sur le terrain un juif, n'est-ce pas? Le christianisme introduisait les juifs dans un autre monde, différent de celui qui leur avait été présenté. Ceci est aussi très, très instructif pour nous, parce que dans tout fait donné dans l'Écriture, il peut y avoir une instruction morale pour les croyants de tous les temps et pour les chrétiens en particulier, et en particulier ici pour nous, nous avons aussi, été appelés à un saint appel. Et nous sommes appelés à vivre dans un autre monde que celui où nous nous trouvons. Nous avons d'autres éléments qui ne sont pas donnés ici. La place et l'activité du Saint-Esprit ne sont pas données là, mais nous pouvons bien nous y arrêter en présence de ces versets. Et quand Abraham est entré dans le pays, les Cananéens y étaient. Nous pouvons dire que le pays qui nous est réservé, eh bien, nous trouvons ici les révélations du Nouveau Testament. Dans le pays qui est le nôtre, il y a pour le moment, dans les lieux célestes, il y a des puissances hostiles. C'est étrange, mais c'est révélé dans les épîtres, en particulier l'épître aux Éphésiens. Et de toute manière, quelqu'un qui est appelé, qui devient un croyant, est amené par cela même à rompre avec un passé, avec son passé. Il entre dans un autre ordre de relation.
Et pour y entrer, oui. Il faut faire comme Abraham, n'est-ce pas?
Oui. Cela entraîne inévitablement des ruptures. L'acceptation de ruptures et qui peuvent être pénibles, douloureuses.
De tels versets concernant Abraham, quand on lit d'abord le livre de la Genèse, et que l'on assiste à toute cette vie de fidélité, on s'attendrait à ce qu'il soit parlé davantage dans le livre des psaumes du Dieu d'Abraham, le Dieu qui a appelé Abraham, qui a conduit Abraham, auquel Abraham a obéi, avec lequel il a vécu. On s'attendrait à ce qu'il soit parlé souvent du Dieu d'Abraham. Eh bien, ce n'est pas le cas. Une seule fois dans tout le livre des psaumes, il est parlé du Dieu d'Abraham, alors que souvent, il est parlé du Dieu de Jacob, Dieu qui a suivi ce patriarche qui s'est égaré bien des fois, jusqu'au jour où Dieu l'a arrêté. Alors, la deuxième partie de sa vie, la fin de sa vie, a été remarquable, il a eu véritablement affaire avec Dieu, et c'est ainsi qu'il est parlé fréquemment dans le livre des psaumes du Dieu de Jacob. Mais du Dieu d'Abraham, il n'en est parlé qu'une seule fois, dans ce verset du psaume 47e, quand il est dit, au dernier verset, « Ceux d'entre les peuples qui sont de bonne volonté, se sont réunis au peuple du Dieu d'Abraham, car les boucliers de la terre sont à Dieu, il est fort exalté. » Le peuple du Dieu d'Abraham, verset 9 du psaume 47e. Par contre, souvent, il est parlé du Dieu de Jacob, et à cet égard, en pensant à Jacob, et en pensant à ce que nous sommes nous-mêmes, il y a une pensée d'encouragement.
Nous pouvons bien noter aussi de quelle manière Abraham est honoré dans les évangiles. Dans l'épître aux Romains, par exemple, lorsque ce cette portion d'écriture règle le cas des Juifs en présence des vérités et privilèges chrétiens. Abraham est appelé le père des croyants.
Le fait d'être appelé le Dieu de Jacob illustre de façon particulière l'expression du verset 16. Il n'a point honte d'eux, savoir d'être appelé leur Dieu. Être appelé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'un patriarche fidèle, magnifie moins la grâce immense de Dieu, que le fait de condescendre si souvent à être appelé le Dieu du pauvre Jacob.
Sont alors ces Hébreux, ces chrétiens pris parmi le peuple terrestre et qui pouvaient s'en tenir aux promesses qui avaient été faites pour la terre. Il s'agissait bien, et c'est là toute l'épître aux Hébreux, n'est-ce pas, de leur présenter à la fois quelque chose d'infiniment au-dessus des bénédictions terrestres et quelque chose qui n'annulait nullement les promesses terrestres, mais qui en était comme un accomplissement par-delà la terre. Je veux dire, leur présentant comme bénédiction, qui sont celles de l'Église, les bénédictions promises par le christianisme, des bénédictions qui étaient figurées simplement par les bénédictions terrestres. Et alors, vous êtes pris, vous, semence terrestre d'Abraham, pour faire partie de ce peuple céleste. Votre appel est un appel céleste. Frères saints, participons à un appel céleste. Vous êtes la vraie semence d'Abraham. Et comme on le trouve au chapitre 2 de cette même épître aux Hébreux, il ne prend pas les anges, mais il prend la semence d'Abraham. Ah, mais alors, restons donc dans le domaine d'Abraham et de la descendance d'Abraham, c'est-à-dire attaché à ce culte judaïque. Ah non, cette semence d'Abraham, elle est appelée d'un appel céleste. Elle a quelque chose de plus que ce que recherchaient seulement ceux qui étaient attachés aux formes judaïques. C'est toujours cette pensée de détacher ces chrétiens de tout ce qui n'a de rapport qu'avec la terre. Et alors, il leur présente Abraham à la fois comme l'exemple de le plus accompli la foi fidèle, obéissante, patiente, comptant sur Dieu, allant jusqu'à sacrifier Isaac dans la certitude que Dieu pouvait ressusciter son fils, mais il le présente, ou l'Épître le présente, comme lui-même, voyant par-delà les choses terrestres et ces choses promises dont l'accomplissement tardait encore, les choses éternelles, la cité permanente. Et comme cela a été rappelé à plusieurs reprises, il faut bien nous représenter qu'il était difficile pour ces Juifs de passer de l'un à l'autre. Et il fallait bien que toute l'excellence de celui qui est la vraie semence d'Abraham, celui en qui est l'accomplissement de toutes les promesses, Christ, fût présenté dans toute l'excellence de sa personne, dans toute la gloire présente et future de sa personne, dans toute la valeur de son œuvre, et de tout ce qui avait été enseigné au peuple terrestre n'étant que figure de ce que Christ a opéré, a fait et de ce qu'il est. C'était la pierre d'achoppement pour eux. Et le Seigneur, dans les évangiles, est bien vu comme tel. Dans l'évangile de Jean, n'est-ce pas, quand il part, quand les Juifs se réclament d'Abraham, leur père. Seigneur, dirige leur pensée vers bien autre chose que la descendance terrestre et Abraham simplement comme homme. C'est au chapitre 8 de Jean, n'est-ce pas? Quand les Juifs répondent à Jésus, nous sommes la postérité d'Abraham. Jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Ah, dit le Seigneur, vous avez besoin d'être affranchi. Mais nous sommes la postérité d'Abraham, jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi, vous serez rendu libre? Quiconque pratique le péché est esclave du péché. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, selon la chair, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. Moi je dis ce que j'ai vu chez mon père, vous aussi donc vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre père. Quelle parole pour ces Juifs. Nous avons un père. Ils répondirent et lui dirent, Abraham est notre père. Et voilà le Seigneur qui leur dit, la paternité terrestre d'Abraham pour vous, mais ça ne compte pas. Bien plus que cela, vous vous réclamez d'Abraham, en réalité, votre père c'est le diable. Moralement, vous êtes fils du diable. Ils répondirent et lui dirent, Abraham est notre père. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Les œuvres d'Abraham étaient des œuvres de foi. Et vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai ouï de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous, vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent donc, nous ne sommes pas nés de la fornication, et nous avons un père, et Dieu. Et Jésus doit leur dire, vous, verset 44, vous avez pour père le diable, et vous voulez faire les convoitises de votre père. Alors, plus loin, ils sont amenés à lui dire, maintenant nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, et les prophètes, et toi tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne goûtera point la mort à jamais. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Ah, voilà toute la question maintenant. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Et les prophètes sont morts. Qui te fais-tu toi-même? Jésus répondit, si moi je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon père qui me glorifie, lui de qui vous dites il est notre Dieu. Et vous ne le connaissez pas, mais moi je le connais. Si je disais mais que je ne le connais pas, je serais menteur, semblable à vous, mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu et il s'est réjoui. Et je vais donc lui dire, tu n'as pas encore vu tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis.
Ils prirent donc des pierres pour les jeter contre lui. Si j'ai lu aussi longuement dans ce chapitre, c'est pour essayer de faire ressortir quel était l'enjeu pour ces chrétiens juifs et pour tous qui étaient là. L'enjeu de tout ce qui était débattu, de tout ce qui était en question. Qu'Abraham n'était que le Père terrestre, qu'il était dans le domaine moral et spirituel le Père de tous les croyants, et que la valeur d'Abraham était dans sa foi, et que sa foi avait un objet, et que cet objet, c'était Christ lui-même. C'est là ce que les Hébreux avaient à comprendre, à voir. C'est ce que nous avons à comprendre et à voir. Et c'est ce qui nous détourne des choses terrestres. Abraham a tressailli de joie parce qu'il a vu mon jour. Il n'a pas vu l'accomplissement des promesses qui lui étaient faites, les promesses terrestres. Il a vu mon jour, le jour où toutes choses seront réunies sous la main du Fils de l'homme et du vrai descendant d'Abraham. Le premier chapitre de Matthieu, et qui est l'objet de la foi de tous les temps. Christ ou un Père terrestre? Abraham, oui, mais Abraham, Père de tous les croyants, Abraham, dont le regard perçait l'avenir jusqu'à contempler la gloire de Christ. Contempler la gloire de Christ, Christ dans la gloire et qui vient, voilà ce qui devait entraîner les Hébreux. Voilà ce qui doit nous entraîner. Et c'est ce qu'Abraham avait devant lui. La cité qui est les fondements, nous dit ce chapitre 11 des Hébreux, mon jour, pouvait dire Jésus.
Ce qui a rendu les choses compliquées, c'est que le peuple des promesses a rejeté le Messie. C'est le rejet du Christ qui n'a pas surpris Dieu, mais qui a fait que Dieu a dû employer d'autres moyens pour bénir son peuple. N'oublions pas que les Juifs sont coupables au premier chef du rejet du Messie. Et si le Seigneur a été traité comme un malfaiteur, c'est les Juifs qui ont poussé à cela. Et alors, c'est ce qui rend aussi plus compliqué l'Épître aux Hébreux. La source des bénédictions de Dieu vis-à-vis de sa créature, elle est toujours la même. C'est Christ, sa personne, son œuvre. Le peuple juif a été un peuple mis à l'épreuve particulièrement, et ceux qui d'entre les juifs seront bénis ne le seront pas pour autrement que tous les croyants du monde. La source du salut et de la bénédiction des élus, des saints, c'est toujours Christ dans sa personne et dans son œuvre. Et même si nous croyons avec très peu de connaissances, mais si nous recevons la foi, eh bien, nous bénéficierons de tout ce que Dieu accorde à la foi, même si nous avons peu de connaissances. Le chrétien croyant simple qui est amené au Seigneur et qui le connaît, entrera dans les bénédictions qui résultent de de l'œuvre de Christ à la croix, de son sacrifice et de sa glorification. C'est en quoi, en tout cas, Abraham est un exemple pour tout le monde, c'est la manière dont il a répondu à l'appel. Sans doute, quelle lumière Dieu lui a-t-il donné à ce moment-là, comme le passage qu'on a, nous a lu dans Jean peut nous laisser penser, nous ne pouvons pas le dire. Quoi qu'il en soit, il a répondu à l'appel de Dieu, et pour répondre à l'appel de Dieu, il fallait que Dieu lui donnât la foi pour cela. Cette foi qui lie pour toujours une âme à Dieu.
En rapport avec l'expression Abraham, le père de tous ceux qui croient, quand le Seigneur Jésus désigne telle personne comme étant une fille d'Abraham ou un fils d'Abraham, ce qu'il dit par exemple concernant cette femme infirme qui répond à l'appel du Seigneur, qui vient vers lui, qui est délivrée de son infirmité, le Seigneur dit en Luc 13, « Celle-ci qui est fille d'Abraham, laquelle Satan avait liée, ne fallait-il pas la délier de ce lien le jour du sabbat, ou bien de Zachée ? Aujourd'hui, le salut est venu à cette maison, vu qu'aussi il est fils d'Abraham. » Le Seigneur souligne la foi de ces personnes, n'est-ce pas? Il n'est pas question d'autre chose dans ces expressions. Elle est fille d'Abraham, elle a cru au Seigneur qui pouvait la délivrer, c'est pour cela qu'elle est fille d'Abraham. Et ça fait la même chose. Du moment que le Seigneur dit, vu qu'aussi il est fils d'Abraham.
Une filiation morale.
C'est ça.
Et par conséquent, on pourrait dire dans ce sens-là, seulement que tout vrai croyant est fils d'Abraham. C'est-à-dire qu'il entre dans les relations, la relation avec Dieu, de la même manière que Abraham a été amené à le faire. Il n'y a pas de sorte de foi. Nous ne pouvons pas analyser ce qu'est la foi, nous le disions hier, mais c'est la foi est le fruit de l'opération de Dieu dans une âme, opération qui a pour conséquence de lier l'âme à Dieu, de mettre l'âme en relation avec Dieu, une relation qui ne peut être rompue par personne.
C'est ce qui est dit positivement en Romains 4. Abraham, lequel est le père de nous tous.
Il n'est pas plus facile aujourd'hui à un inconverti de devenir un chrétien aujourd'hui que dans d'autres temps. Il faut pour chacun l'œuvre divine, l'œuvre divine dans l'âme. Ce ne sont pas les enseignements qui en eux-mêmes, les connaissances qui peuvent produire cela. Dieu peut s'en servir, mais Dieu emploie tous les moyens qu'il veut. Il peut convertir une âme et en faire un enfant d'Abraham à sa dernière heure, ici-bas. Et il le fait.
Et la foi se repose toujours sur ce que Dieu a dit. Abraham est les cohéritiers de la même promesse, Isaac et Jacob, n'avaient rien d'autre que la parole de Dieu. Des choses promises, ils n'avaient rien d'autre, mais ils avaient cette promesse. Voilà pour la justification. Mais ensuite, pour la vie et pour la marche, c'est la parole qu'il avait reçue qui compte pour lui, qui est sa vraie richesse, qui est sa force, De sorte que même les bénédictions matérielles, qui ont été considérables pour Abraham, c'était un prince dans ce monde, il ne faut pas l'oublier. Il avait une armée à lui. Mais ne l'écarte pas de la parole qu'il reçoit. Et c'est celui qui a toujours reçu, il a eu des révélations multiples. Nous n'avons pas le temps de reprendre toute son histoire, mais il a eu des révélations multiples. Eh bien, chaque fois, il a reçu cette parole de Dieu, comme dans le 15 de la Genèse, ou 22 de la Genèse, où il croit Dieu et cela lui est compté à justice. Parce que chaque fois, il a reçu cette parole comme étant la parole de Dieu, sans discuter, sans rien d'autre que s'en saisir. Et c'est en cela qu'il nous est donné ici en exemple, et il obéit.
Et il est ajouté, et il a été appelé ami de Dieu.
Oui. Dieu lui a fait alors ses confidences. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Ce n'est pas proprement ce que nous avons ici, mais cela fait partie des privilèges qui ont été ceux d'Abraham, le plus grand qui lui ait été accordé. Il nous est rappelé alors plus loin ici dans l'épreuve d'Abraham, c'est de recevoir son fils comme de la mort, par la résurrection, d'où aussi en figure il reçut. Quelle chose a été accordée à Abraham. Mais si nous revenons au passage précis que nous avons sous les yeux, et nous le voyons obéir, et nous le voyons vivre comme un étranger dans la terre de la promesse. Ce qui veut dire qu'il avait devant lui des choses qu'il saluait de loin, sans doute, mais qu'il voyait de loin. La foi et l'assurance des choses qu'on espère et la ferme conviction de celles qu'on ne voit pas. Tous ceux-ci sont morts dans la foi, on va y revenir évidemment, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vues de loin et saluées, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et forains sur la terre.
Notons encore une fois qu'il y a la foi pour passer de l'incrédulité à Dieu, la conversion si l'on veut. Ce changement fondamental est opéré par Dieu comme il l'entend, dans des conditions qui sont loin d'être identiques d'une personne à l'autre. Dieu peut bien donner la vie à une âme sans qu'elle sache rien des vérités de l'Écriture. Qui peut empêcher Dieu de faire cela, de se révéler directement à une âme? Et puis ensuite, à la suite, nous avons donc la foi pour la réalisation ici-bas d'une vie qui soit autre que celle de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est la foi pour la marche. Et là, ce serait plutôt souvent la foi dans le sens de confiance en Dieu. S'attendre à Dieu, se compter sur Dieu pour tout ce que représente la position assurément difficile d'un chrétien dans ce monde-ci dont Satan est le prince. Que nous n'oublions pas cela non plus.
que Dieu soit suprême, c'est sûr, mais Dieu permet que Satan soit le prince de ce monde. Et nous avons à faire notre chemin au milieu de tout cela. Abraham a eu ses difficultés, nous avons les nôtres.
Il y a donc la foi qui sauve, c'est une pensée qu'on aurait dû exprimer hier, m'excuse de revenir un peu en arrière, mais comme vous parlez de deux acceptions de ce terme fondamental, la foi qui sauve, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, puis la foi dans la marche, c'est-à-dire la confiance en Dieu journellement réalisée, à côté de ces deux acceptions, il y en a une autre propre aux épîtres pastorales, où la foi est plus exactement l'ensemble de la vérité chrétienne à laquelle la foi s'attache. Par exemple, quand l'apôtre Jude parle de combattre pour la foi qui a été enseignée une fois au saint, il semble bien là qu'il y a la pensée d'une vérité ou de vérités pour lesquelles il faut combattre. Et puis alors, une quatrième acception, quand il est parlé des dons dans l'Assemblée, en 1 Corinthiens 12, il est dit qu'à un est donnée la parole de sagesse, à un autre de connaissance, à un autre de foi. Alors la foi est représentée comme étant un don particulier, donné à un frère à un moment donné, par exemple, en présence de difficultés données. Il n'a peut-être pas une connaissance très particulière des Écritures, peut-être pas la parole de sagesse qu'il faudrait donner, mais il a particulièrement ce frère-là, plus que d'autres, à faire avec Dieu. Il a foi en Dieu en présence d'une circonstance donnée que l'Assemblée traverse. Vous pensez comme ça?
C'est sûr, et ce frère-là, et Dieu veuille qu'il y en ait dans tous les cas critiques, ce frère-là, alors que peut-être beaucoup de frères et sœurs seront désemparés, lui aura une confiance en Dieu, donnée par Dieu lui-même, bien entendu, qui pourra sauver la situation. C'est une confiance en Dieu qui maintiendra le frère en question, et la sœur aussi, dans un état tel qu'il puisse intercéder et intercéder et empêcher ainsi que des ravages soient commis par l'ennemi. C'est évident, ça. Et la foi, la foi dans ce sens-là, elle n'est pas égale chez tous les frères, mais elle n'est pas égale même chez le même frère, elle peut varier suivant sa fidélité ou la réalité de sa fidélité. Mais autrement, il est clair, quelqu'un qui aurait Dieu avec lui de façon très nette ne craindrait rien ni personne.
C'était aussi dans les temps où des dons de l'esprit m'étaient donnés de façon manifeste, visible, ce pouvait être un don particulier de puissance exercé par la foi. L'apôtre peut dire, si j'avais la foi qui transporte, que j'ai toute la foi de manière à transporter des montagnes. Mais dans tous ces cas, il s'agit bien, malgré tout, d'un fond commun, ce ne sont pas des espèces différentes de foi, mais on oserait dire des applications particulières, des aspects différents de la foi qui toujours a pour fondement
la révélation de Dieu, disons la parole de Dieu, reçue par l'âme comme étant de Dieu. La foi, et en particulier cette foi doctrinale, on peut dire, n'est-ce pas, la troisième sorte que notre frère a présentée, gardons-nous de la restreindre à la lettre, n'est-ce pas, à ce qui peut être présenté comme doctrine, mais à ce qui est proprement la parole de Dieu pour un temps, pour une dispensation particulière, et qui a sa puissance propre, qui est celle de l'Esprit de Dieu, l'appliquant à l'âme, parce que c'est cela qui est reçu, cru par la foi. Je pense que dans la seconde épître de Pierre, par exemple, quand il nous est parlé de la foi, on voit la liaison des deux choses, je crois, hein, plus qu'ailleurs, quand il est parlé de la foi de pareil prix, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous. C'est la foi chrétienne, et l'apôtre s'adresse précisément à des gens qui étaient sortis du judaïsme. C'est la foi enseignée par les apôtres de Christ, la foi chrétienne, on pourrait dire la doctrine chrétienne, mais reçue par la foi. Ceux qui ont reçu en partage, elle a été offerte, mais elle a été reçue par la foi. Mais vous disiez d'ailleurs que c'est dans toutes les épîtres pastorales qu'on trouve cela. Nous écartons peut-être un peu du sujet examen, et il est bon de préciser ces choses.
Et alors, si l'on permet encore juste un mot concernant Éphésiens 4, il y a une seule foi. De quelle foi s'agit-il quand il y a une seule foi?
Je pense du troisième aspect.
Ah, c'est ça.
Du troisième aspect. Il n'y a qu'une confession de foi chrétienne. Et comme le passage en question englobe certainement non seulement les vrais croyants nés de nouveau, mais les professants. C'est quelque chose de caractéristique la maison, de la grande maison de l'Église chrétienne, considérée sous son aspect responsable. Mais il est clair qu'il y a une seule foi, c'est-à-dire tous ceux qui se disent chrétiens professent recevoir les mêmes grandes doctrines, doctrines fondamentales. Que ce n'est pas cela. On ne peut pas se dire chrétien si l'on ne déclare pas adhérer, ne fût-ce que du bout des lèvres, au fondement de la foi chrétienne. Et on peut le faire sans être sauvé. Et là, de même que le baptême, il y a un seul baptême, elle ne confère pas la vie nouvelle. De même qu'il y a un seul Seigneur, dans le même passage, n'est-ce pas? Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Seigneur. Mais ce ne sont pas tous ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Des quantités de gens qui auront prononcé le nom du Seigneur et qui en réalité ne le reconnaissent pas dans leur cœur par la foi véritable comme le Seigneur.
C'est une triste chose de penser que on puisse avoir une apparence de foi. Et malheureusement, c'est le cas pour des multitudes. Dieu veuille que personne ici ne se fasse illusion. Ici, et alors nous disons, mais comment la foi se prouve-t-elle? Et nous n'avons qu'à lire l'épître de Jacques et le chapitre 2. C'est ce que je viens de dire, n'est-ce pas, se trouve en propre terme. La foi sans les œuvres est morte. Mes frères, quel profit y a-t-il si quelqu'un dit qu'il a la foi et qu'il n'est pas d'œuvre? Il y a cette parole qui suit et qui est extrêmement sérieuse. La foi peut-elle le sauver? Ils ont dit, alors on nous enseigne que la foi sauve, qu'on est sauvé par la foi. Mais la foi indépendante de son objet, la foi qui ne serait qu'une affirmation de l'esprit sans que l'âme tout entière soit engagée là et par conséquent toute la vie, ce n'est pas la vraie foi, ce n'est pas la foi qui sauve. Et la foi ne sauve que parce que c'est la foi en celui qui est le sauveur, en celui qui sauve. Et en tout cas, la foi se prouve aux yeux de ceux qui nous entourent de la même manière qu'Abraham a prouvé la sienne. Et c'est ce que cet épître de Jacques et ce passage de Jacques nous montrent précisément. Au verset 18, quelqu'un dira, tu as la foi et moi j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvres. C'est impossible de montrer la foi sans œuvre. La foi ne se montre pas par des paroles. Elle se montre par des œuvres. Montre-moi ta foi sans œuvre, et moi par mes œuvres je montrerai ma foi. Tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons aussi croient, ils frissonnent. Mais veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est morte? Abraham, notre père, n'a-t-il pas été justifié par des œuvres quand il a eu offert son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et par les œuvres la foi fut rendue parfaite, et l'Écriture a été accomplie qui dit, et Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice, et il a été appelé ami de Dieu. Vous voyez qu'un homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Abraham cru Dieu, bien. Comment l'a-t-il montré? Qu'est-ce qui nous permet, et qu'est-ce qui permet l'Écriture d'affirmer qu'Abraham a cru Dieu? C'est qu'il a obéi et qu'il s'en est allé, ne sachant où il allait. Abraham, dans l'activité de la foi. Abraham, homme de foi et marchant par la foi. Et l'épître, le chapitre 11 de l'Hébreu, des Hébreux, c'est l'activité de la foi dans des hommes. C'est la foi prouvée par des œuvres. Un cher et vénéré serviteur de Dieu qui a écrit un traité magnifique, délicieux à lire, traduit, c'est mal traduit, il est vrai de traduire en français, mais introuvable maintenant, qui s'appelle l'épître aux Hébreux, ou les Chris, ou les cieux ouverts. L'original en anglais, c'est méditation sur l'épître aux Hébreux, ou point de vue sur l'épître aux Hébreux. C'est une série, non pas, c'est pas une étude vraiment suivie, mais c'est un ensemble d'impressions admirablement rendues d'un croyant fervent et qui allait au fond des choses et dit, après avoir dit quelques mots, chapitre 11 des Hébreux, en un chapitre des Hébreux, l'esprit
appelle l'homme à jouer. À jouer dans le sens, à agir, à montrer son action. Mais en anglais, c'est très expressif. Et il appelle the man to play. Il appelle l'homme à entrer en jeu, n'est-ce pas? Il y a le travail de Dieu, et combien il nous est exprimé dans toute cette épître aux Hébreux, mais alors le travail de la foi, l'activité de la foi, les combats de la foi. Et voilà Abraham, il obéit, il vit comme un étranger sur la terre de la promesse. Il offre son fils en sacrifice. Ah, comment peut-on dire qu'on a la foi si l'on n'a pas des œuvres? Mais des œuvres de foi. Il n'y a pas d'œuvre pour gagner la foi. Il n'y a pas d'œuvre pour obtenir la foi. Et il n'y a pas d'œuvre pour obtenir la justification. Mais une fois justifié par la foi se montre par les œuvres, et les œuvres justifient la foi.
Mon frère a cité tout à l'heure le passage d'Abraham qui a cru Dieu, et cela lui a été compté à justice. Passage fondamental, passage cité bien des fois dans le Nouveau Testament. Il est pourtant dit d'un homme qu'il a fait quelque chose, et que cela lui a été compté à justice. Il s'agit de Phinée, de ce que Phinée a fait, défendant l'honneur et la gloire de Dieu dans une scène effrayante, la scène de Baal-Péor. Et alors, son nom et son acte à cette occasion-là sont rappelés dans le psaume 106e. Et il est dit qu'il fit cela, il exécuta la colère de l'Éternel, et cela lui fut compté à justice. Comment faudrait-il comprendre que ce que Phinée a fait là lui a été compté à justice?
L'a-t-il fait autrement que par la foi?
C'est ça, c'est ça.
Dieu ne peut pas ne pas reconnaître ce qu'il a fait faire.
Oui, c'est ça.
Ouais. Et... on irait trop loin, mais dans le même traité que je rappelais tout à l'heure, et qui est du frère Wigram, eh bien, l'exemple de Phinée est rappelé à plusieurs reprises. Il est présenté comme un type de Christ, et que l'un des droits de Christ, comme homme, n'est-ce pas, et dans le fait qu'il a été le vrai Phiné, non, ça ne va pas trop loin.
Si on remarque ces démonstrations de foi, ces œuvres de foi, plus d'une fois, celles que nous avons lues sont plutôt surprenantes et même contre nature. Qu'un père aille offrir son fils, c'est un crime. Et de même que les autres qui sont indiqués. L'action de Dieu dans une personne, un homme, peut le conduire à agir d'une manière tout à fait opposée au courant de la nature. La foi est peut-être souvent opposé au courant de la nature, dans le bon sens du mot, n'est-ce pas? Et des exemples pourraient se trouver facilement, en tout temps. Nous pouvons retenir que lorsque Dieu se met à agir dans un homme, il peut faire accomplir par cet homme des choses tout à fait inattendues, mais toutes à la gloire de Dieu. Et souvent aussi, Dieu attribue à celui qui agit ainsi ce que lui-même lui a donné de faire, comme nous venons de le voir. De sorte que, lorsque nous pensions à une conversion, nous aurions beaucoup plus
il serait préférable que nous eussions le souci de demander à Dieu qu'il fasse le travail qui doit être fait. Et Dieu, quand il fera le travail, se chargera de montrer que le travail est fait et de le prouver aux yeux des autres par des actes. Nous ne voyons pas ce qui se passe au-dedans, mais on peut bien dire qu'il est impossible qu'une personne passe des ténèbres à la lumière et de son état de péché à Dieu sans que Dieu se charge de mettre en évidence les effets d'un travail qui ne peut être que le sien. Et nous n'avons pas besoin, c'est même une mauvaise chose, pas besoin de chercher à exercer des pressions sur des âmes, des personnes qui nous sont chères. Ce n'est pas ce que nous avons à faire, ce n'est pas le chemin. Dieu n'a besoin de personne. Il n'agit sous la pression de personne. Ce serait le déshonorer que de penser cela. Et nous le déshonorons quand nous ne lui donnons pas la place qui est la sienne. C'est lui seul qui fait passer quelqu'un de l'état de mort à l'état de vie, qui lui donne la foi. Et ce changement dans une âme est son œuvre exclusive, elle n'est l'œuvre de personne d'autre. Il peut employer un évangéliste pour que des conversions se produisent, ou un père pour que la conversion de son fils soit opérée. Mais ce n'est pas le père qui a fait l'œuvre. C'est Dieu seul qui fait l'œuvre. Et si nous avons à cœur de reconnaître sa gloire et de lui rendre l'hommage, Dieu bénisse cela. Si les parents reconnaissent qu'ils ne peuvent rien faire et qu'ils crient à Dieu, Dieu bénira plus sûrement leurs enfants que si ces mêmes parents cherchent eux-mêmes à intervenir pour provoquer une transformation et un changement à propos desquels ils ne peuvent exactement rien sauf prier.